Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
Comment discerner aujourd'hui des enfants dits difficiles, d'enfants souffrant de troubles bien réels? Comment s'y retrouver et être bien accompagné et soutenu dans un parcours de soins adaptés et respectueux des enfants et des parents? Qu'en est-il de la formation des pédopsychiatres? Autant de questions que peuvent se poser des parents aujourd'hui désemparés souvent. On en parle aujourd'hui tout de suite dans mon émission. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Sagnier. Bonjour Christine Sagnier.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Roméo à la folie » paru aux éditions Zinédie. Alors c'est un roman, mais c'est en même temps un roman très autobiographique.
En partie, avec aussi notre vécu et beaucoup de témoignages recueillis pendant de longues années.
Par rapport à votre fils, notamment.
Absolument.
Oui, Roméo. Oui, oui. Oui. Qui s'appelle Roméo dans le livre, qui s'appelle en réalité Roméo.
Non, il s'appelle Léo.
Et j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois le professeur Philippe Jamais. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, professeur des universités. Vous avez été praticien hospitalier de psychiatrie et psychanalyste français. Et vous avez une certaine expertise sur le sujet. Vous êtes d'ailleurs venu déjà en parler ici à cette antenne. On a l'impression aujourd'hui que c'est toujours une problématique en France que... d'aborder ce sujet des troubles des jeunes, des adolescents notamment, par rapport à ces troubles psychiques, ce mal-être. En tout cas, on a l'impression toujours qu'on est dans le flou, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les enfants.
Mais oui, d'abord parce que c'est difficile, les relations, mais parce que c'est vrai qu'on est dans le flou, je pense, encore, dans nos connaissances sur ce que sont les maladies mentales. C'était l'objet de mon dernier livre auquel j'étais venu, quand nos émotions nous rendent fous. C'est-à-dire que là, on ne sont même pas d'accord entre nous sur ce qu'est la maladie mentale, sur ce que l'esprit, est-ce que c'est mental, est-ce que... Ouais, et la société, je dirais même. Et là, maintenant, il faut quand même comprendre que depuis 50 ans, on a fait des progrès dans la compréhension de la vie comme on n'en a jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. Donc en 50 ans, on a une idée plus précise de comment se déroule la vie, non pas le pourquoi, donc chacun peut garder ses croyances, elles ne sont pas mises en cause, mais le comment, ouais. Et là, il faudra qu'on puisse l'appliquer un petit peu et même beaucoup, à ce qu'on appelle justement les désordres mentaux. Parce que, d'ailleurs, vous l'avez dit en commençant, il faut différencier de ceux qui sont vraiment en difficulté et puis les autres. Mais il y a une continuité. C'est pas dès qu'on va mal, c'est pathogène. Ouais. Aller mal, c'est-à-dire être en difficulté, avoir peur.
On voit que cette notion de souffrance psychique, et on va le voir aussi avec Christine Sagnier, on voit que cette notion de souffrance, elle est très vague. On n'arrive pas vraiment à la définir, on n'arrive pas à mettre un mot sur ce mot de souffrance psychique.
En ce qui nous concerne, les choses sont venues petit à petit. Vraiment petit à petit, on l'a senti.
Racontez-nous un petit peu.
Oui, en fait, dans mon roman, mais donc c'est repris de notre vie. Et c'est vrai que moi, mon fils, donc lui, est adopté, est arrivé assez tard à la maison, puisqu'il est arrivé à 7 ans. Et il a certainement vécu des choses extrêmement difficiles avant, dont l'abandon. Et donc, probablement aussi beaucoup de carences affectives. Et arrivé à la maison, il y avait des choses, vraiment des comportements... différents, des choses étranges qui étaient là, je pense, en semence et qui sont allées crescendo jusqu'à un moment où tout a explosé. Et je pense que c'était un chaos épouvantable vraiment pour lui. Et du coup, ça nous a envahis absolument.
Ouais. Et notamment pour la maman.
Oui, parce qu'en fait, il y avait une relation très forte.
Principale, quelque part,
oui, je pense,
dans le livre.
Dans la perte aussi. Donc, la perte de la mère, l'abandon par la mère. Et après, celle qui est face à lui est certainement dans une relation extrêmement forte. Du coup, c'est elle qui prend beaucoup.
Et on voit au fur et à mesure de ces lignes de cet ouvrage, Christine Sagnier, cette errance. De médecin en médecin, de pédopsychiatre, d'établissement, où où vous n'avez pas de réponse, où on vous prend un peu... on va voir tout au long du livre aussi cette culpabilisation de la mère. On en est à une conception un peu en retard, je ne sais pas, hein, professeur Jamais, où les parents sont encore parfois culpabilisés.
C'est surtout qu'il faut qu'on fasse une réflexion sur le sens de tout ça. C'est pour ça que je disais, on est arrivé maintenant où à un point où on peut mieux comprendre ce déroulement de la vie et que notre fonctionnement... Enfin, toute souffrance est psychique. Hein. Si on n'a pas de cerveau, il n'y a pas de souffrance. Hein. Bon, donc, c'est pas parce que... Vous voyez, là aussi, on voudrait qu'elle soit vraie, organique, ou qu'elle soit... Quoi, psychique ?
Voilà, elle comprenne un médicament et voilà. Ouais.
Non, mais psychique, c'est le cerveau. C'est pas une pensée. C'est l'angoisse qui est créée par le cerveau. Donc là, il faut qu'on repense vraiment notre lien entre le psychique et le biologique. Ouais, il y a un malentendu. Tout est biologique à la base. Sans biologie, il n'y a pas de vie. Et le biologique, surtout chez l'être humain, enfin chez les êtres vivants aussi, il est activé par quoi ? Par la rencontre. Et c'est parce que la rencontre influence le biologique qu'on va dire, ah mais c'est psychique parce que quand je m'occupe de lui, il est comme si je m'éloigne, il est comme ça. Mais c'est pas psychique, c'est la relation qui va induire quoi ? Ben des émotions primaires, de peur ou au contraire de confiance, et tout va se jouer là-dedans. Et que ça, le pathologique, c'est quand on s'enferme dans des comportements que l'on n'a pas choisis d'ailleurs, on ne les choisit pas, on ne choisit pas comme ça de réagir, non. Comme vous le décrivez, ça s'impose.
Absolument.
On pourrait choisir de changer, mais pour ça, il faut avoir confiance et il faut comprendre ce qui se passe.
Mais le souci, c'est qu'on était, donc on allait voir, nous, des psychiatres, on essayait de leur expliquer notre souci, vraiment l'expliquer, et on ne nous entendait pas, on cherchait de l'aide.
On vous donnait des réponses toutes faites.
Et aussi des espèces de petites phrases sibyllines, et puis vous ressortez avec une nouvelle question.
Vous le dites au milieu de votre ouvrage, hein, on entre en psychiatrie comme en religion, avec force conviction, et c'est préférable attendu le nombre d'épreuves et d'embûches qui s'ensuit.
Oui, ça a été vraiment infernal, un engrenage, un véritable engrenage. Et je pense parce qu'au départ, je ne sais pas, il y a aussi, nous, c'est complexifié par cette histoire, par l'adoption, mais on voit qu'il y a tellement... de non-dits dans l'adoption aussi, tellement de préjugés autour, parce que moi, ça faisait très très longtemps que je disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais les proches autour ont toujours considéré que tout allait bien, ou qu'éventuellement c'était moi, mère adoptive, qui prenait les choses, qui ne les aurait pas prises de la même manière si j'avais eu un enfant biologique. Or, ce n'était pas ça. Et notre fils, vraiment, je pense, était dans une... sa remise en question de tout ce qui s'était passé dans sa vie, l'impossibilité d'aller de l'avant, s'abordant systématiquement dans un monde terriblement manichéen, ne voulant plus nous écouter du tout. Hein. Là, c'était clair, plus aucune autorité. Et quand on est parent, il y a un moment, on se sent totalement débordé. On a peur, on craint pour la vie de son enfant aussi. Hein. Je veux dire, nous, on a vu Léo tenter de sauter par la fenêtre. Sont des choses. Et en face, rien. Pas d'écoute.
Professeur Jamais, cette errance des parents, elle est terrible parce que avoir de réponse, ne pas avoir un diagnostic.
Oui, mais probablement qu'on a pensé vous en donner aussi des réponses. Mais il y a des malentendus qui vont se créer. Il faudrait qu'on arrive d'ailleurs à parler un peu plus simplement de ces malentendus en disant « mais moi, je ne comprends pas ». Enfin, qu'on s'explique un peu là-dessus parce qu'il y a l'ensemble des pédopsychiatres, sans quand même répondre à... Mais on peut ressentir ça très vite comme une accusation.
Une
culpabilisation, alors que c'est pas, il faut qu'on sorte de cela, dire que on a une importance, l'environnement, enfin la vie, c'est la rencontre d'un génome et d'un environnement, donc l'environnement, il est important. Quand il y a un cerveau qui donne la réflexivité comme l'être humain, il est encore plus important. Et évidemment, qui sont les plus importants? Mais les personnes les plus investies,
oui,
c'est naturel, les dont les parents. Oui. Bon.
Mais les parents ont un savoir. Et les parents ont un savoir. Et souvent, quand même, on est relégué à l'écart, comme
ce sont
des pions.
Les premiers témoins du comportement de leur enfant.
Mais là, je pense que ce sentiment d'être relégué est plus un vécu par rapport à vos attentes, enfin compréhensible, qu'une réalité. C'est pas relégué, c'est que... Et là, on en parlait tout à l'heure, à l'heure un peu entre nous. Il y a peut-être une manière de dire les choses. Et c'est là où je dis c'est triste parce qu'on va créer des situations qui peuvent être dramatiques à partir du malentendu. Alors qu'au fond, chacun, au départ, était prêt à coopérer. Et puis après, ben, si on ne se comprend pas, bon, alors plus ou moins facilement.
Facilement quand même.
Oui,
mais il n'y a pas que des gens, j'allais dire, bien intentionnés quand même.
Oh, sur le plan, sur le fond, je pense quand même grossièrement que si.
Je vous citer. Ils ne font pas ça pour vous. Bah, l'envers est pavé de mauvaises, de bonnes, de. On en a entendu vraiment. Vous savez, mon mari malade, parce qu'on tombe aussi malade. Parfois, c'est tellement difficile. Et mon mari malade, le psychiatre lui dit, c'est bon signe devant notre fils. Mon mari malade, c'est bon signe. Non, ça n'a rien.
Mais attendez le contexte. Il faudrait prendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être qu'il était malade.
Qu'est-ce qu'il veut dire?
Il se déprimait, votre mari.
Ah oui, il avait perdu des kilos et des kilos.
Oui, non, mais peut-être là, ce qu'il voulait dire, c'est que vous êtes impliqué, vous réagissez, c'est signe que maintenant vous. Bon, je ne sais pas par rapport à quoi il jugeait, alors que la phrase soit. Mais il faudrait pouvoir dire que comme c'est bon signe, j'ai du mal à comprendre, et qu'on s'explicite là-dedans. C'est là où il y a ces malentendus, vous voyez, sur le fond, parce qu'il ne dit pas ça pour vous. C'est bon signe, vous êtes malade, tant mieux. Non, ça veut dire pour lui, probablement qu'il pense que tout d'un coup, vous allez devenir plus empathique. Vous avez mieux comprendre probablement le rôle de ses émotions.
À la fois, on n'a pas besoin d'être malade pour comprendre son enfant.
Non, mais quelquefois, non, on n'a pas besoin, mais par moment, si, il faut abandonner le fait d'abandonner des positions, des convictions.
Ah oui, tout à fait.
Peuvent tout d'un coup vous déstabiliser en disant, mais enfin, t'as qu'à faire ceci, t'as qu'à faire cela, pourquoi tu n'as pas plus de volonté.
Professeur Jamais, c'est vrai que on a fait une émission l'autre jour sur l'autisme, ici même, et on a compris aussi, en entendant les différents parents témoigner, il y avait une incompréhension de leur témoignage, de leur réflexion, de leur interrogation face à un monde médical parfois qui les laisse sans réponse, qui ne mettent pas des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X, et il y a une errance au niveau du diagnostic, etc. Alors chaque pédopsychiatre a peut-être son école, etc. Et il y a la difficulté aussi, évidemment.
Parce que ce n'est pas des maladies comme les autres.
Voilà,
non plus. C'est-à-dire, c'est pas. Vous avez un cancer, vous ne l'avez pas encore, il y a aussi des formes atténuées, mais vous avez une typhoïde ou vous ne l'avez pas. Là, ce n'est pas pareil. Il n'y a pas l'autisme, ce n'est pas maladie.
Oui.
C'est un comportement, une organisation qui renvoie à des vulnérabilités de nature qu'on connaît encore insuffisamment. C'est une réponse ce sont des vulnérabilités qui vont faire qu'on va répondre de façon inadéquate, et que si ça s'organise, cette réponse inadéquate, ça devient une maladie. La maladie, elle est au fond, au bout. Elle est dans le fait de s'enfermer dans un comportement qu'on n'a pas choisi.
Entre le normal et le pathologique, il y a un gouffre.
Il y a un continuum.
C'est ça.
Et qu'on a tous des potentialités dites pathologiques, c'est-à-dire de nous enfermer, alors plus ou moins. Et qui vont dépendre pour s'exprimer des circonstances,
mais
de,
je dirais quand même
de l'environnement.
Les psychiatres peuvent aussi, psychologues, peuvent tous aussi à un moment dire je ne sais pas, faisons le chemin ensemble. Et ça, c'est rarissime que quelqu'un. Enfin, ça existe évidemment, mais il faut avoir beaucoup de chance pour rencontrer quelqu'un qui est capable de dire. Là, dans l'état des choses, je ne sais pas, mais nous allons travailler ensemble.
Oui, mais en même temps, certains vous diront, ils me disent, je ne sais pas, alors pourquoi vous êtes installé si vous ne savez pas, ce n'est pas la peine d'être médecin.
Allez, on va poursuivre cette discussion après, vous le savez, une première pause dans l'émission. Puis n'hésitez pas à réagir à l'antenne, vous le savez, vous pouvez appeler au 01 56 56 44 00. Si vous êtes dans une situation comme l'a été Christine Saigné, si vous êtes aussi... peut-être optimiste par rapport à la prise en charge d'un de vos proches. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
En quête de sens, 01 56 56 44 00.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois. Chaque jour, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans 1000 questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect, ce que dit l'Église. Parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. 1000 questions à la fois, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, du lundi au vendredi à 17h, sur Radio Notre-Dame.
Ah, le printemps, les oiseaux qui chantent. Pour votre confort, pensez à remplacer vos vieilles fenêtres. Pour une meilleure isolation, mais aussi pour remplacer portes ou volets, la Maison de la Fenêtre est le spécialiste qu'il vous faut. En plus, pendant la belle saison, une remise de 20% vous sera accordée. Appelez vite pour demander un devis, il est gratuit, tout comme le déplacement. La Maison de la Fenêtre, agréée par l'Association française de défense du consommateur. 01 42 11 0303 42 11 0303.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
L'année dernière, vous avez été des milliers à nous rejoindre pour nous écouter et nous soutenir, tous conscients de l'utilité d'un média comme le nôtre. Aujourd'hui, nous voulons vous remercier et vous demander de convaincre autour de vous de nouveaux auditeurs capables de s'engager à leur tour dans cette formidable aventure. Car nous croyons à l'originalité de cette antenne, à la place qu'elle doit occuper dans le monde d'aujourd'hui. Rejoignez-nous en nous apportant votre soutien au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr.
En quête de sens, Sophie Noailles.
Et nous parlons aujourd'hui de ces maux, ces troubles psychiques des jeunes, des adolescents, avec les parents qui doivent y faire face, qui sont souvent démunis et il faut pourtant être aidé et accompagné pour garder son équilibre. On en parle avec Christine Sagnier et le professeur Philippe Jamais aujourd'hui. Je vous cite Christine Sagnier. Presque à la fin de votre livre, vous dites « Grand Dieu qu'il est pénible d'être mère quand l'enfant disjoncte. Je ne dis pas que j'étais exempte de défauts. Mes cris ont bercé l'enfance de Roméo, cris de joie, de stupeur ou d'horreur selon les événements. » Et puis plus loin, « Je l'affirme, la mère est l'os que les psys rongent quand ils n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Mère abusive, mère fusionnaire, castratrice, au mieux mère trop aimante. Là, c'est le trop qui sera retenu. » Professeur Jamais, on est un peu dans la caricature, mais parfois, voilà.
Mais quand même,
oui, mais c'est bon de voir la caricature, c'est-à-dire de voir comment ça peut être ressenti. Parce que bien sûr, ceux qui le disent le vivent de manière plus nuancée, mais c'est ressenti par les autres quand même de façon très, très, très massive. Et oui, c'est ça part, je pense... Il faut voir les choses d'une manière dynamique. On était passé quand même dans les années 50, 60, d'une situation où il y avait une autorité parentale, une société très, très verticale. Et on s'est aperçu que, justement, beaucoup de parents voulaient imposer à leurs enfants, enfin, voyez, au fond, leurs troubles comme une déviation presque morale. Vous voyez, on a quand même pendant longtemps accusé ceux qui ont écrit la main gauche d'avoir un mauvais caractère parce que, voilà, enfin, c'est-à-dire qu'il faut voir d'où on part, combien on est. Ouais, on a ça. Besoin sans arrêt de fonctionner de manière binaire. Il y a le bon, c'est-à-dire comme moi, et le mauvais, ce qui n'est pas moi. Donc, on est sorti un petit peu de cela, et la psychanalyse d'ailleurs a apporté une interrogation sur tout cela en disant c'est pas une mauvaise volonté de l'enfant, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc on a voulu le mettre à distance, les parents. Et puis après, bien sûr, on s'est enfermé là-dedans. Alors que le problème, c'est que les parents, la plupart du temps, et c'est pas qu'ils veulent imposer à leur enfant, c'est qu'ils sont perdus. C'est que dans cette histoire, tout le monde est un peu perdu. Et qu'il faut qu'on repense ce qu'est la maladie mentale ensemble, ce qu'est ce trouble, voilà. Et comment on peut s'entraider, et chacun pouvant garder sa position, mais en s'entraidant.
Christine Sagnier, concrètement, comment ça se passait avec votre fils ?
Voilà. Effectivement, je pense que la difficulté, il y a un moment où on a l'impression de perdre toute autorité, donc on se fige. On devient totalement crispé et puis on attend quand même de son ado de 14 ans qu'il rentre à l'heure, enfin qu'il rentre au moins, tout simplement d'ailleurs, déjà.
C'est un grand gaillard dans le livre,
oui,
en tout cas.
Tout à fait. Qu'il mange avec nous éventuellement, parce que pour nous c'est important. Enfin, plein de choses, qu'il aille à l'école. Et puis on se retrouve réellement, on s'est retrouvé à s'entendre dire lors d'un entretien qui était assez étonnant parce que notre fils n'était pas... à nos côtés, mais du côté en face de nous et du côté des psys, puisqu'ils étaient nombreux. Et on s'entend dire alors que l'on avait vraiment... qu'on avait tout lâché. On ne pouvait plus lâcher quoi que ce soit, on avait tout lâché. Et on s'entend dire qu'il allait falloir faire des efforts des deux côtés. Et là, que faire ? Que faire ? Puisque de toute façon, on ne pouvait plus rien tenir. Et ça, il y a quand même quelque chose... Enfin, c'était, comment dire, il calquait des situations sans, j'ai l'impression quand même, il y a aussi un manque parfois d'humanité qui fait que, et d'empathie, qui fait qu'on ne nous écoute pas du tout.
Oui. Là, c'est le type même pour moi de ce malentendu si tragique, mais qu'on retrouve partout dans la vie, dans les couples, dans les... comme ça, où on ne se comprend pas. C'est-à-dire que quand ils vous disent il va falloir lâcher, c'est pas la même chose que vous le viviez, vous, comme on a tout essayé, rien ne marche, on baisse les bras et on abandonne, ou comme prendre plus de distance, ne plus laisser trouver un autre moyen de gérer les choses sans lui imposer ceci, relativiser son comportement. Et dans une ambiance...
Ce fameux lâcher prise dont vous parlez à un moment donné, voilà. Christine Sagnier.
Oui, mais ce que vous, c'est le fait de vivre comme un échec et un abandon. On est épuisé, on ne sait plus quoi faire, on a tout essayé. Ce n'est pas la même chose que de dire, mais finalement, on va accorder un peu moins d'importance à cela. Ça ne veut pas dire pas du tout. Vous voyez, arriver à trouver des choses nuancées. Okay. Et ça, c'est très difficile pour tout le monde. C'est d'autant plus qu'on a des attentes émotionnelles importantes.
C'est difficile, professeur Sagnier, parce que, vous le dites, Christine Sagnier, c'est un engrenage. On est pris dedans. Enfin, les parents sont pleins de bonne volonté, évidemment, pour que leur enfant aille mieux, pour comprendre ce qui se passe, et pour eux aussi être soutenus par le milieu médical dans la démarche.
Mais il y a une attitude, parce qu'il y a les paroles, mais il y a l'attitude de la personne en face de vous et sa rigidité, son on a vraiment le sentiment que cette personne pense détenir le savoir à 100% et qu'elle vous impose des choses. Et franchement, quand on nous a dit, nous, à un moment, on n'est pas allé voir notre fils en hospitalisation pendant 15 jours parce qu'on n'en pouvait plus, et que le psychiatre nous dise après, vous êtes les premiers parents qui n'êtes pas allés voir leur fils pendant 15 jours, eh bien, je vous assure, c'est pas lui qui vivait avec... À la maison. Enfin, ils ne comprenaient pas. J'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que l'on vit. C'est parfois, certains, je sais pas tous, hein, mais c'est une tempête, un ouragan. C'est une obsession. On ne vit plus que par ça, en plus. On ne vit plus qu'à travers ça.
Vous le dites à un moment donné, vous l'écrivez sous ces lignes. Vous voyez, vous consultez, on vous dit, nous avons longuement discuté, déclara l'infirmier, morose, votre fils est très malheureux. Nous aussi, soufflai-je. Oui, mais madame, lui n'a rien choisi. Comme si nous avions choisi ce qui se passe.
Oui, c'est...
Mais tout ça, là encore, c'est des malentendus, parce que lui n'a pas l'intention de vous blesser, et c'est ça qu'il faudrait arriver à rétablir.
À bon. Mais on cherchait de l'aide.
Vous voyez, quand vous me dites ça, mais bien sûr, mais quand vous me dites ça, vous voyez comment je le reçois. Or, très vite, et c'est normal... On va réagir en miroir, c'est-à-dire vous allez un peu vous bloquer devant cela. Le psychiatre va ressentir ça comme une attitude critique et un peu hostile, et il va se bloquer. Et c'est comme ça que se font tant de malentendus dans les couples, dans la vie. Et d'autant plus que sur le fond, on est plus en attente. Quand on est plus indifférent, plus en distance, on en prend, on en laisse. C'est pas... Mais dès qu'on est pris émotionnellement...
C'est légitime, professeur, d'être en attente.
Mais en plus, ce n'est pas un choix. Je veux dire, ce n'est pas une question de légitimité. On l'est, c'est normal, mais on l'est plus ou moins en fonction de son tempérament. Et puis le ton. Et vous avez quand même un tonus, qui est une force, qui est une chance, mais qui peut être ressenti en face par dire, celle-ci, elle est un peu culottée.
Je sais, tout à fait.
Et puis elle est autoritaire. Je serai son fils. Tout ça, il faut remettre du jeu. C'est pas là le problème.
Professeur Philippe Jamais, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le diagnostic, dans le fait de mettre des mots sur ces mots dont souffrent notamment les jeunes, les adolescents?
Eh bien, on est en pleine évolution, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, là, que j'explicite dans le livre auquel je faisais référence, c'est on ne peut plus parler de maladie mentale. Je crois qu'il faudrait mieux parler, c'est des troubles du cerveau, des troubles de la gestion des émotions, de niveaux différents, où il y a une part liée au tempérament, à notre génome, l'autre... à notre rencontre avec l'environnement, notamment les premières années, qui vont évidemment contribuer à nous construire dans notre réponse émotionnelle, et que, avec tout ça, on va arriver avec, par moments, des choses très fortes, très solides, qui auront peu de chances d'être ébranlées de manière importante, et d'autres, un spectre de vulnérabilité et plus on est vulnérable, plus l'environnement va compter aussi, c'est pas le contraire.
Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a plus d'enfants vulnérables justement et plus d'adolescents, ou est-ce qu'on fait finalement plus de diagnostics qu'avant? On va plus se pencher sur le comportement des enfants?
C'est une fausse question, mais c'est qu'on a beaucoup plus d'exigences qu'autrefois.
C'est ça.
C'est-à-dire que il y a une demande, il y a une possibilité d'évolution, de scolaire, etc., qu'on n'avait pas autrefois. Donc on ne peut pas parler équipements dans ces
il
termes-là.
Il n'y en a pas plus qu'autrefois.
Pour le moment, pas plus qu'autrefois, mais on a beaucoup plus d'exigences, et tant mieux. Et donc, ces exigences, pour certains, quand ils sont dans l'insécurité, ça va être une source de désorganisation et de peur. Parce que ce que vous ressentez là très bien vis-à-vis de votre fils, il faut se dire, ça a à voir avec ce que lui ressent. C'est que lui, il est dans la même situation. C'est ça qu'il faut aussi comprendre et qu'il faut qu'on partage avec les thérapeutes. Parce que très souvent, on a les mêmes... Bon. Et puis, il y a peut-être quelque chose. En un mot, il me semble qu'on a été trop formé sur un mode exclusivement médical, c'est-à-dire on s'occupe de ce qui ne va pas. Mais qu'il faudrait en même temps travailler sur qu'est-ce qui va. En même temps. Ouais. C'est un mot à la mode, mais qui est très juste. C'est que là où on est binaire, il est malade, donc on s'occupe de sa maladie. Non, il est malade, mais il a envie d'aller bien. Et c'est tout cela qu'il faut aussi en même temps. Qu'est-ce qui est important pour lui pour aller bien, qu'est-ce qu'il faut tenir les deux fils, il y a toujours deux fils à tenir, et ça nous aiderait à mettre un petit peu de jeu dans les rencontres et à ne pas les dramatiser et à pouvoir exprimer vous aussi ce que vous ressentez de pénible, de négatif, et que le psychiatre puisse l'entendre, non pas comme une critique de lui, mais comme une souffrance de votre part, et lui-même est en difficulté et pouvoir le dire en disant je peux pas là vous dire plus que ce que je dis, et on va essayer ensemble de créer.
Mais Christine Sagnier,
je pense que nous parents nous étions, et ça c'est remarqué, je pense, à chaque fois, à chaque évolution de notre fils, on évoluait exactement de la même manière. On était prêts, on n'était pas complètement figés sur nos positions. On pouvait tout à fait de nouveau reprendre, enfin je veux dire, aller
vivre
totalement vers lui, vivre normalement, l'écouter, être dans... Non, il n'était pas bien, hein, du tout, donc être à l'écoute, dans la bienveillance, dans le... Il y avait, parce que je repense à ce dont on parlait, de thérapie familiale, il y a cette histoire de thérapie qui est difficile à digérer en tant que parent quand vraiment tout fout le camp. Et parce qu'on est prêt, je pense que la plupart sont prêts à modifier leurs attitudes dès lors qu'en face, il y a un petit mouvement, en fait. Voilà, enfin, je pense qu'il faudrait nous faire confiance aussi sur nos propres capacités à évoluer, en fait, avec notre enfant.
Je pense qu'on le fait, mais qu'il faudrait que les médecins aussi, nous-mêmes, dans notre théorisation, nous comprenions, que ce soit mieux dit, ça. On a besoin de co-construire, comme ça se passe dans toute vie, d'ailleurs, normal. Mais là, avec beaucoup plus d'attention, justement, parce qu'il y a la peur qui domine. Tous ces comportements là, c'est de la peur, c'est pas un choix. Et c'est ça qu'il faudrait pouvoir plus partager, s'entraider, accepter nos différences sans les dramatiser, pouvoir se dire quand vous m'avez parlé, là j'ai trouvé que c'était un peu vif, enfin un peu, et je l'ai ressenti. Oui, qu'on puisse se dire des choses normales, mais qui vont nous influencer si on ne le dit pas. C'est-à-dire, on va se braquer.
Il y a la forme, mais si, il y a le contenu, et on parlait tout à l'heure de mettre des mots sur les mots, et à un moment donné, c'est vrai que quand on apporte un diagnostic, professeur Jamès, ça soulage aussi en partie sans doute les parents de pouvoir mettre un mot sur ce dont souffre l'enfant.
Oui, sauf que ça soulage, mais ça peut aussi être mal entendu. C'est-à-dire que, vous voyez bien, les poids des mots, quand on dit schizophrène, quand on dit autiste, ouais, et il y a des formes. Tout ça, c'est un panorama. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment tout à repenser un vocabulaire. Nous sommes trop marqués par le passé actuellement. Ces mots ont une connotation trop forte. Et il faut retrouver un vocabulaire plus nuancé.
Ouais. Christine Sagnier.
J'ai eu, moi, le sentiment que, en fait, à force d'entretiens qui n'avaient lieu qu'avec notre fils, on ne pouvait pas aussi, parfois, dire les choses. Et le psychiatre en face de nous ne pouvait pas nous dire les choses. Si bien que ça a conduit à des situations plus ou moins dramatiques qui n'auraient pas eu lieu, je pense, si nous avions su. Parce que nous, donc notre fils a été hospitalisé quand même 5 mois à Sainte-Anne, et ils avaient organisé un soin étude dans une institution qu'on a jugée vraiment plus que déprimante, et on l'en a retiré, mais on l'en a retiré aussi parce qu'on ne savait pas, on ne nous avait rien dit. Donc, on ne mesure pas, en fait, on ne mesure pas parce qu'on ne nous parle pas assez.
Et est-ce qu'à ce moment-là, vous avez peut-être cherché de l'aide ailleurs, à l'extérieur, dans un entourage alors proche ou avec d'autres parents, pour partager ce que vous vivez?
Nous, non. C'est vrai que je ne suis pas, moi, portée vers les associations. En fait, j'aurais eu dans la vie de maintes occasions, en fait. Et je n'avais pas envie de m'enfermer là-dedans non plus, en fait. Je ne voulais pas faire être, ne vivre. Alors déjà, on ne vit que par ça. Et ne pas, en plus, n'être qu'avec des parents. Et l'entourage, les proches, sont pas certains soutiennent et puis d'autres ne comprennent pas parce qu'il y a cette espèce de peur, je pense, de la maladie, de l'hospitalisation en psychiatrie qui fait que les gens se disent...
Non. Jamais, on a toujours ces mots qui font peur aujourd'hui
Il y a un énorme travail. On est à un moment, je crois vraiment que ça devient possible d'arriver à comprendre que ce sont des spectres, que la maladie, elle est dans l'enfermement, dans le comportement. On n'est pas malade parce qu'on a fait tel trouble. Mais on le devient si c'est notre mode habituel de réponse. Ouais. Et que là, qu'est-ce qui est problématique? C'est des réponses qui sont des réponses comportementales, relationnelles, qui nous empêchent d'aller dans le sens de la vie, c'est-à-dire cette co-construction, cet échange qui fait la vie. Et tous les troubles dits psychiatriques nous coupent à un niveau ou à un autre de la relation avec l'environnement, au niveau du corps, au niveau des apprentissages, au niveau de la sociabilité, parce qu'en se coupant, on se protège. C'est un moyen, le seul moyen pour le sujet. Ce n'est pas décidé, c'est une réaction spontanée de protection, plus ou moins forte, selon son tempérament, de survie. C'est une conduite, moi je parle de conduite adaptative, mais qui est pathogène parce qu'elle nous ferme sur nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe aussi pour votre fils. Plus il est fermé sur lui-même, plus il se sent mal, plus il se sent mal, plus il se referme. Et c'est ça qui est la pathologie. Et il faut comprendre qu'on a besoin de tout, et éventuellement des psychotropes, et de la relation, et des parents, et des pourquoi ? Mais pour remettre dans l'échange.
Je confirme, parce que lui m'a dit là, il y a peu, que le mutisme dans lequel il s'était vraiment enfermé, au début c'était sa réponse. Sa réponse au monde, à ce qu'il vivait en famille.
Il n'est pas choisi, hein.
Oui, tout à fait. Mais sa réponse, c'était le mutisme. Enfin, lui dit l'avoir choisi. Hein. C'est parce que c'était soit éclaté, soit explosé, soit se taire. Donc il se taisait, et réellement, pendant 2 ans, on a eu l'impression qu'il ne nous parlait pas. Mais il m'a confirmé après que ce mutisme, c'est devenu un enfermement, mais quelque chose d'épouvantable pour lui.
C'est en cela que je dis que c'est pas très important, c'est une contrainte émotionnelle. C'est-à-dire que sur le moment, ça le soulage. Donc il pense que c'est choisi. Si vous avez quelqu'un qui vous gratte la figure, on vous dit non, il ne faut pas que tu te grattes parce que tu vas t'escorier. Ah ben oui, mais ça me gratte. Et ce n'est pas que vous choisissez, vous pourriez choisir de ne pas le faire. Vous ne choisissez pas de le faire. Vous vous laissez aller à ce qui spontanément fait que vous êtes moins mal. Ouais, c'est
une réponse.
Et c'est pour ça qu'on va... On prend souvent de persécution, ça comme une persécution. C'est vrai que dès qu'on est attaché, les mères en particulier à leur enfant, dès que ça ne va pas, elles le vivent un petit peu comme l'enfant qui dit « il me fait encore une angine ». Mais il ne fait pas une angine pour embêter sa mère. C'est normal que ça embête sa mère, mais il me fait, vous voyez, quand même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je suis forcément tellement en lien avec lui, mais ce n'est pas intentionnel. Mais c'est pareil. Il me fait sa crise de colère, Non, il fait ce sur le moment. Il pourrait faire autrement. Mais pour ça, il faudrait qu'il ait confiance, qu'il ait moins peur et qu'il comprenne le sens et que ça en vaut la peine. Oui. Et ça, c'est très long à apprendre. Oui. Voyez.
Mais je pense que nous, en l'occurrence, notre fils a pu s'apaiser parce qu'il s'est mis vraiment à l'écart de toute relation affective, d'une certaine manière. Donc, effectivement, parce que je pense que la peur venait de relations très fortes et la peur de l'abandon.
Justement, pas d'absence de relation, la peur, que ça, comme s'il allait être aspiré par la...
Aspiré, qu'aussi on allait... s'il y avait trop de proximité, il avait l'impression qu'il n'existait plus. Et aussi cette peur d'être abandonné. Alors, plutôt que d'avoir peur, autant aller vers l'abandon tout de suite. Et il s'est vraiment apaisé.
C'est même pas comme ça.
Tout à fait.
C'est un réflexe automatique. Si vous avez l'impression de tomber, vous allez vous mettre en arrière. C'est de cet ordre-là. Alors, vous pouvez secondairement vous raisonner, dire non, il faut quand même. Mais secondairement, vous voyez. C'est pas là où c'est dit. C'est
pas, et ne pas être raisonné par quelqu'un d'extérieur non plus. Ça ne fonctionne pas.
Non, il s'est apaisé tout seul.
Si on a confiance. Ouais. Si, ça peut arriver. Ça. C'est qu'heureusement, dans les traitements, c'est ce qui petit à petit fait qu'on reprend confiance. Et surtout parce qu'on comprend le sens de ce qui se passe. Bon. et que justement, ce n'est pas un choix d'aller comme ça. Et ça, petit à petit, mais ça prend un temps.
Mais il n'a pas rencontré, je pense, la bonne personne. Il se trouvait, il y a aussi, c'est aussi les sortes de protocoles dans chaque institution, chaque hôpital fonctionne à sa manière. Il faut ressasser les mêmes histoires 10 fois. Et pour un ado qui ne parle pas, c'est difficile. Il y a un moment, c'est épouvantable. Et lui ne supportait pas, en plus d'être là devant 10 personnes qui étaient un peu comme des juges. Enfin, il se sentait dans cette situation-là.
On va poursuivre cette discussion après cette pause musicale et on se retrouve juste après pour terminer cette émission sur ces troubles psychiques dont peuvent souffrir les jeunes, les adolescents.
Radio Notre-Dame.
Je serai là dans cette émission d'Enquête de sens aujourd'hui avec Christine Sagnier et le professeur Philippe Jamais. Christine Sagnier, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que les parents ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés aussi? Parce que la problématique de votre ouvrage Roméo à la folie, c'est aussi ces parents qui peuvent aussi disjoncter.
Oui. Moi, j'ai eu besoin de voir un psychiatre parallèlement pour préparer presque nos entretiens. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez compliqué. Et après, on ne s'en sort pas indemne de tout ça, en fait. On perd énormément confiance en soi, c'est difficile. Je pense qu'effectivement, il faudrait envisager... une aide, une écoute, quelque chose, mais tout ça lié certainement, en fait, pas chaque chose cloisonnée dans son, voilà, les parents avec un psychiatre, l'enfant avec un autre, il faut du lien, il faut quelque chose.
Professeur Jamais, est-ce que c'est en train d'évoluer, cette prise en charge aussi des, si on peut dire, des aidants, parce que les parents se retrouvent aidants de leurs enfants à un moment donné?
Oui, oui, mais on évolue tout le temps, pas toujours.
Heureusement,
la vie, c'est ça, pas toujours dans le bon sens, mais enfin, et par va-et-vient, oui, oui, mais c'est cette, il faut absolument qu'il y ait ce partage, pense, mais à mon avis, de sens aussi, actuellement, il faut
que... Mais parce que les parents veulent
du sens, c'est du bon sens.
Lié à la compréhension, non, lié aussi aux découvertes récentes, quand même, bon. Et qui nous aide à...
Et elles sont nombreuses, ces découvertes.
Oui, il reste beaucoup à faire. Mais enfin,
c'est
vrai
sur
la vie, sur... Non, mais justement, sur l'impact sur tout le domaine biologique, sur comment se fonctionne le cerveau, l'importance...
Cette capacité du cerveau, justement,
Et ça a évolué. Et son extrême sensibilité, en même temps, à l'environnement. Et d'autant plus qu'il y a, justement... plus de vulnérabilité. Donc, ne pas opposer, voilà, c'est de la chimie ou c'est du relationnel. Ce qui met en œuvre la chimie, c'est la relation dans la vie. Bon. Et cette relation, elle va dépendre de cette qualité. Et là, on a un pouvoir formidable. Nous sommes des générateurs d'ambiance. Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on sache. Hein. Et que l'ambiance est plus important que les mots. Parce que vous pouvez dire le même mot d'une manière qui va être sentie comme empathique ou au contraire comme dédaigneuse. Oui, le même.
Bon, donc alors, là, ça veut dire quoi concrètement, générateur d'ambiance, professeur?
Générateur d'ambiance, c'est-à-dire se dire quelle atmosphère on crée autour de nous, que ce soit au travail, que ce soit en famille, se questionner un petit peu, mais au fond, et demander aux enfants aussi autour un petit peu quelle ambiance nous avons. Hein, et pouvoir se questionner, se rendre compte que c'est souvent sur des malentendus, des détails qu'on va se crisper. Plus on se crispe, plus ça devient tendu, plus ça devient tendu, plus on se ferme. Et ça y est, la machine est partie à faire des choses. Donc, l'ambiance est quelque chose d'important. Et les mots ne suffisent pas. Il faut qu'on se dise, il faut qu'il y ait une ambiance de confiance qui se crée.
Mais l'environnement, c'est large. L'ambiance, c'est large. Ça voudrait dire que même à l'intérieur d'une famille, il faut recréer un cocon particulier.
Il faut périodiquement s'interroger. Est-ce que là, on n'est pas en train de se laisser prendre et faire qu'il y a une atmosphère de plus en plus tendue, qu'on parle plus? S'interroger, faire un petit peu comme autrefois dans les bonnes maisons, là, les ménages de printemps et d'automne, une ou deux fois par an, mais dans des services aussi. Ouais, de dire qu'est-ce qui se passe là en ce moment, il y a une ambiance. Et on sait bien que le burn-out, tout ça, tous ces troubles-là, c'est lié à des questions d'ambiance. C'est le fond, c'est l'atmosphère qui se crée entre nous. Et que ça, les plus sensibles, c'est comme des éponges. Et l'anxiété, ça diffuse immédiatement. Hein.
Mais il y a aussi une construction. Moi, je pense que dans le cas de notre fils, il a aussi eu sa construction de départ qui fait qu'il réceptionnait. Enfin, je veux dire, ce qu'il vivait à la maison. Il ne le comprenait pas, en fait, parce qu'il y avait certainement eu, j'allais dire, plein de fractures en permanence.
Et, ça restait et il avait une inconnue.
Oui, il avait des réponses étranges. Parfois, je pense que c'était compliqué.
De son ressenti. Bon. Ouais. Et que c'est ça qu'il faut pouvoir arriver à reprendre avec lui.
Oui, et à retricoter. Enfin, c'était ça.
Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'effectivement, le poids du passé va faire que, et ça plus ou moins, va faire que justement, le négatif va s'imposer à lui beaucoup plus que le positif.
Professeur Jamais, on voudrait, et sans doute c'est légitime, que ça soit résolu rapidement, qu'on trouve des solutions, qu'on trouve le traitement adéquat. Mais malheureusement, cette matière, entre guillemets, demande du temps.
Oui, mais enfin, pour beaucoup de choses, ça demande du temps. Élever un enfant, l'éduquer, ça demande du temps. Voilà, il faut se donner, savoir que ça va prendre du temps, mais créer ces conditions de la confiance, voilà, et savoir que c'est possible et qu'on peut se questionner les uns des autres, apprendre au fond à communiquer, ce qu'on appelle la capacité réflexive, la métacommunication, communiquer sur notre relation. Et de pouvoir se dire à un certain moment, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou là, j'ai l'impression de ne pas comprendre ce que vous me dites. On pourrait apprendre sans le ressentir comme une critique ou une attaque. Et de dire, bon, mais c'est sûrement un malentendu. Comprendre l'importance du malentendu.
Ça veut dire prendre le temps de le faire.
Mais voilà, ça c'est un point important.
Parce que vous avez en consultation, etc. C'est minuté, c'est 10 minutes, c'est un quart d'heure.
Ils sont aussi submergés par tout des... Mais bon, on va pouvoir aussi faire des lieux d'expression, des groupes aussi pour... ça ne remplacera pas non plus le dialogue singulier.
Ah non.
Mais quelquefois, ce n'est pas tant une question de temps que de savoir, de pouvoir introduire aussi ce fait que, attendez, on peut arriver à se dire des choses.
Ouais. Christine Sagnier, quand un diagnostic a été fait par rapport à votre fils, à ce dont il souffrait, qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Pas d'étonnement, parce que en fait, moi, je pensais à ce diagnostic depuis le début, j'en avais parlé. Mais voilà, au moins, c'était clair, c'était dit, et on se sentait quand même un peu...
De quoi il souffrait ?
Borderline. En fait, Léo a été diagnostiqué borderline. Mais on voit bien que tout a évolué énormément, et comme si le cerveau était aussi un puzzle et que les choses se remettaient en place.
Puzzle.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est typiquement le diagnostic qui n'en est pas vraiment. Enfin, bon.
Oui, voilà. Mais moi donc, j'ai eu cette impression quand même qu'il y avait des choses très, très particulières et beaucoup de parents qui ont des enfants borderline le disent aussi.
Mais c'est ça, c'est quoi être borderline ?
Eh bien, que justement, ce n'est pas un trouble bien identifié. C'est un mélange de troubles du comportement, de variations de l'humeur, de troubles un petit peu des idées. Et au fond, d'être dominé quand même par ses émotions sur un fond de grande insécurité. Voilà. Bon. Mais ça ne donne pas les symptômes classiques de la schizophrénie, ça ne donne pas, c'est pas non plus le trouble bipolaire dans tout ça.
Oui.
Mais c'est ça un petit peu de tout ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est quand même, ça montre bien plutôt la complexité des
de tous les troubles
que ce n'est
qui
un diagnostic.
Sont...
Ouais. Ça veut dire que voilà, il y a une instabilité à la fois émotionnelle, de son humeur, de ses possibilités de confiance, où il y a une part sûrement de vulnérabilité et une part liée à son histoire, à comment il s'est construit. Et tout ça peut être construit, c'est-à-dire que il n'y a rien de définitif. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est comment gérer, au fond, l'angoisse de la vie quotidienne. Voilà, comment gérer Alors, c'est un problème très, très humain pour nous tous.
Cette fameuse angoisse existentielle.
Existentielle, hein. Oui. Et c'est là où la conception qu'on a de ce qui se passe en nous, justement, du fonctionnement du cerveau, peut nous aider à montrer que toutes ces variations, on les subit et qu'on peut arriver à aller en reprendre le contrôle dans la mesure où elles nous gênent.
Christine Sagnier.
Je suis tout à fait d'accord, mais moi je voyais des, il y avait vraiment quand même des choses très caractéristiques, en fait, plein de petits détails qu'en tant que parent on ressent. Et effectivement, je pense que il n'a pu être diagnostiqué borderline que parce qu'il est resté en hospitalisation de jour, et que là on a bien perçu, parce que le comportement à l'extérieur n'était pas du tout le comportement à l'intérieur de la cellule
familiale.
Vous êtes
arrivé qu'on ne vous croit pas ?
Ah oui, on nous croyait pas. Oui, 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 qu'on nous dise, mais non, il fait une petite dépression. Bon, une petite dépression, on était très très loin de la petite dépression. Et il n'y avait plus de médicaments, parce qu'à un moment, il a été quand même médicamenté. Et dès lors que l'un des hôpitaux a décidé de cesser les médicaments, parce qu'aussi, il n'avait pas du tout demandé à avoir le dossier médical du précédent, tout est reparti dans un espèce de tourbillon infernal. J'allais dire, pendant toutes ces années, ce qui est important en tant que parent aussi, c'est de garder le cap, de toujours être fidèle quand même à ses idées, sa manière de vivre, continuer à vivre, continuer à sortir, à essayer de voir du monde, même si ça se complique quand même. Ça, on fait un grand, grand ménage, je dirais. Et oui, vivre pour montrer à l'ado qui va mal que, bon, ben, on tient le coup, et que même s'il ne va pas, la vie continue, quoi. Elle continue.
Professeur Philippe Jamais.
Oui, mais ça, c'est la vie.
Ouais, mais c'est pas facile.
Et que ça peut
pas toujours
non,
facile.
Non, bien sûr. Ouais. Mais voilà, c'est simplement un peu plus lourd, un peu plus dense que pour beaucoup de vie. Mais
très dense.
Très dense, mais là aussi, il y a toute une gamme de ce qu'on appelle les états limites. Hein, toute une gamme, justement, parce que ça montre que... Ce qui montre bien, c'est que... C'est tout le système relationnel qui est en jeu dans tout cela, et que par moment ça va se cristalliser sur des troubles qui deviennent les plus flagrants et qui vont ressortir. Bon, les troubles obsessionnels, les peurs, les éléments délirants ou là, mais que c'est toujours le même système avec plus ou moins de vulnérabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Tout ça, c'est une façon de s'adapter.
Voilà, mais vous conviendrez, professeur, que ce n'est pas évident pour des parents qui découvrent à un moment donné, dans l'évolution de leur, que leur enfant grandit. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux parents qui sont dans ces situations-là?
On n'a pas besoin de s'abîmer pour se sentir exister, ouais. Et qu'on ne laisse pas un enfant se priver de ce à quoi il a droit, ça c'est injuste, c'est-à-dire développer son corps, ses potentialités cognitives et affectives, et que dès qu'il y a quelque chose où il se ferme à la relation, c'est pas un choix, ouais. C'est qu'il y a de la peur. Alors après, que ce soit borderline ou que ce soit plus ou moins ceci ou cela, ça va concerner les médecins par rapport notamment à la prescription de psychotropes. Mais ce n'est pas l'élément le plus fondamental. Vous voyez, c'est que tous ces troubles dénotent la même chose, c'est que la peur prend le pas sur la confiance. Et que cette peur est liée à la fois à la situation, à son tempérament, à ce qu'il a vécu et comment on va l'aider.
Mais la réponse souvent des parents face à tout ça, parce que face à cet ado qu'on ne maîtrise plus, face à parfois la toute-puissance de l'ado, et on a le sentiment vraiment de la toute-puissance des psychiatres, et notre sentiment, on est après pris...
Tout le monde est impuissant dans l'affaire.
Oui, certainement. Mais justement, nous, on est pris par une sorte de colère, et je pense que ce n'est que quand on peut lâcher sa colère que les choses peuvent s'apaiser. Mais vraiment, face à soi, tout le monde est impuissant, mais tout le monde n'a pas le courage de dire « Ah, voilà, ce n'est pas simple, faisons ce chemin, justement, ensemble. »
Parce que justement, la toute-puissance, vous voyez, c'est un mot qu'on emploie volontiers, quelquefois les psychiatres aussi, à mon avis tout à fait à tort, parce que c'est quand on se sent impuissant. Voilà. C'est-à-dire que c'est les moments où ils se sentent vulnérables, et à ce moment-là, ils réagissent d'une manière où ils n'écoutent plus, où ils font pour se rattraper eux-mêmes.
J'allais dire, le psychiatre aussi tout-puissant, quand il se sent impuissant, il culpabilise les parents. Ça... Vraiment, c'est vraiment à ce moment-là très particulier où on voit bien qu'ils sont totalement démunis et leur réponse, qui est certainement un peu humaine et très maladroite, ils cherchent vous. Alors vous serez le responsable puisqu'on ne trouve pas. Voilà.
Christine Sagnier, comment allez-vous aujourd'hui?
Bien.
On arrive au terme de l'émission.
Bien.
Ça fait plaisir. Ça donne beaucoup d'espoir aussi à ceux qui nous écoutent et aux parents qui sont dans ces cas-là.
Oui, mais c'est vraiment, c'est long, c'est...
Il n'y a pas de fatalité, c'est ça qui est important. Aussi. Alors maintenant, personne ne peut dire à l'avance si on va réussir. Pour personne d'ailleurs.
Non, mais c'est important ce que vous dites, professeur. Il n'y a pas de fatalité.
Mais il faut se donner des outils pour les mieux. Il faut se donner des outils qui sont à la fois la parole, la confiance, les psychotropes. Enfin, c'est un cumul d'outils. Voilà.
Voilà. Et faire en sorte de tous travailler ensemble.
Ensemble, voilà. Et en disant que ça en vaut la peine. Qu'il en vaut la peine.
Discuter.
Dialoguer. S'écouter.
Communiquer. Voilà. Être à l'écoute.
Voilà. Ce seront les mots-clés de cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup, Christine Sagnier. Je rappelle votre livre « Roméo à la folie » aux éditions Zinédie. Merci beaucoup, professeur Jamais, pour votre éclairage.
Merci.
Voilà. Et à une prochaine fois.
Avec plaisir.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
Et demain, nous parlerons de toute autre chose. En ces temps estivaux, chacun cherche à se préserver de la chaleur et du soleil. Mais comment profiter de ce dernier sans prendre de risques? Réponse demain avec des professionnels de santé.